chargement. Et on va commencer. Ah, vous n'avez pas la... Vous n'avez pas de licence?
Non. Pas beaucoup.
Ok. Alors, on va le faire avec...
Voilà.
On va y arriver, on va y arriver. C'est parfait, lui il est prêt à recevoir le signal. Et le programme. Allez hop, on va du coup, hop, je vais vous mettre sur le son de la salle. Je vais vous laisser parler dans deux secondes. Allez-y. Alors, hop, je vous laisse parler, on va voir, on va faire le test dans la salle. La vidéo, hop, non. Alors là, on ne vous entend pas, haut-parleur. Hop, allez-y.
Oui, je vous demande aussi...
Alors, attends, on ne vous entend pas, je vais aller chercher ça. Alors, c'est en haut, je vais faire ça.
Là, c'est bon.
Ah oui, je suis bête. Non, mais c'est pour ça qu'on n'entend pas. Je suis bête, hop.
Le premier jour, j'étais toute seule. Maintenant, je crois qu'il y en a quelques-uns.
Hop, allez-y. Toujours pas mince. Alors pourquoi il s'affiche pas déjà? Là, il y a un petit problème.
Parce qu'il est branché derrière.
Ah, il est branché déjà. Là, c'est un fixe.
Alors,
hop là. Alors, on vous voit déjà.
Et si on vous...
Voilà, on va vous entendre, c'est parfait. Alors, je vais vous tourner. Ah bah, on va pas avoir la vue, non. Alors, vous n'allez pas forcément pouvoir les voir. Hop, attendez. On va bien régler, on va bien régler.
Je vous avais perdu, je ne sais pas si c'est votre connexion ou non.
Voilà, c'est bon, là on va vous entendre. Là, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, oui. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez donc mon PowerPoint aussi en parallèle? Très bien, donc quand je dis suivant, vous pouvez cliquer sur le suivant. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Malheureusement, je ne vous vois pas. Je vois que la salle est très floutée, mais en tout cas, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Si j'avais été invitée en fait l'année dernière, j'aurais pu me rendre à Evian sans problème, parce que je vois Evian de ma fenêtre, enfin ce matin non, parce qu'il y a du brouillard, mais je suis juste en face. Malheureusement, c'est vraiment trop compliqué à atteindre pour moi. Voilà, donc ce matin, je suis avec vous pour vous partager quelques résultats de l'enquête que j'ai menée sur des nouvelles formes de jeûne dans la société. Puisque donc s'interroger sur l'alimentation, c'est aussi s'interroger en miroir volontaire de la non-alimentation. Et surtout, je dirais, à une époque où que cela ne vienne pas de prescriptions religieuses, surtout de l'Église dans le cas de l'Europe. On peut passer à la diapositive. Poser un petit peu le cadre de mes recherches, donc je suis sociologue des religions, et mon enquête sur les nouvelles formes de jeûne en Autriche et en France tient son origine de mes enquêtes sur la pratique que je conduis depuis maintenant, plus spécifiquement de ma recherche sur les mutations de la scène monastique contemporaine, qui avait donc donné lieu au livre One Cup of Tea que vous voyez ici, sur le PowerPoint. Lors de cette recherche, donc dans des monastères en Autriche et en France, je me suis rendu compte que beaucoup de moines ou moniales avaient une question de plus jeûner, surtout lorsqu'ils mangent de la viande ou que le carême est partout. Un moine autrichien m'a dit cette phrase en entretien, « Il y a maintenant plus d'ascèse dans l'Église. » Et en effet, j'ai pu observer en Autriche de nombreux encouragements tant de la consommation et des stages de jeu où l'on se nourrit de vie. J'ai alors décidé de poursuivre. J'ai choisi librement, volontairement, restreindre, alors que vraiment, rien ne m'y oblige, en tout cas pas les prescriptions religieuses. De nouveau, l'on se prive, l'on renonce, l'on s'astreint, à des points que les plus grandes ascètes de l'histoire du catholicisme ont rarement vécu. Ne se nourrir que de liquide pendant des jours ou des semaines n'a jamais été une pratique adoptée largement dans les communautés monastiques catholiques. Les virtuoses de l'ascèse, donc ceux qui pratiquaient des formes extrêmes d'ascèse, posaient au contraire des problèmes aux communautés et certains se sont fait exclure. Je précise que dans cette enquête, je n'ai étudié que des pratiques corporelles de jeûne qui ont un but spirituel et donc pas des pratiques qui ont uniquement un but thérapeutique ou un but de régime, donc maigrir. Cette enquête sur le jeûne a aussi signifié pour moi de me confronter personnellement à la question du jeûne. Donc en tant que sociologue, nous essayons le plus possible de faire ce qu'on appelle des enquêtes de terrain, donc de participer à ce que l'on étudie. Et au début, j'avais planifié de faire tous les étés plusieurs stages de jeûne de randonnée pour recueillir le plus de données possible au cours des 3 années. Ma première expérience en juin 2014 de jeûne et randonnée selon donc, la méthode Bourignan que je vais présenter a changé la donne. Seulement, j'ai expérimenté l'impossibilité de participer à ce genre de séjour sans moi-même jeûner et donc de faire directement l'expérience du jeûne dans mon propre corps. En effet, la responsable ne voulait pas m'accepter si moi-même je ne jeûnais pas complètement. Au début, donc, je me réjouissais de pouvoir participer à des semaines de randonnée sans nécessairement jeûner. Ça n'a donc pas été possible et il a fallu moi-même que je participe pleinement à ces expériences. Et je me suis rendu compte lors de la première semaine de jeûne que cela représentait un investissement humain important, puisqu'il faut auparavant réduire sa consommation, ensuite la semaine de jeûne, et ensuite reprendre lentement sa consommation. Et j'ai aussi appris, lors de ces premières expériences, que l'on ne peut pas faire plus de 2 semaines de jeûne par an pour respecter le rythme corporel, ce qui m'obligea donc à revoir le plan de mes enquêtes. Et à cela s'est ajouté aussi des expériences assez totalisantes, en fait, dans les groupes de jeunes qui ont fait pour moi de ce terrain des expériences qui n'ont pas toujours été agréables. Voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc nous pouvons passer à la diapo suivante. Comme je vous le disais, cette enquête sur le jeûne, pour moi, s'est inscrite dans la suite de mes enquêtes sur la vie monastique et donc l'ascèse monastique. Et je suis partie donc de l'observation d'un recul du jeûne dans l'Église et dans les monastères. Donc lors de mes enquêtes sur l'ascèse, les moines déclaraient, je cite, ne pas jeûner vraiment, que la période du carême ne se ressent pas vraiment, ou, je cite encore, qu'ils ne vivent pas d'ascèse concernant la nourriture. La règle de Saint-Benoît prévoit théoriquement de ne pas manger de viande. Mais dans certains pays, comme l'Autriche ou l'Italie, les moines en mangent au moins quelques jours par semaine. Parallèlement, la thèse de la nourriture s'individualise, chacun jeûneur de ce qu'il peut et de moins en moins imposé toute la communauté. Il est courant dans les communautés actuellement de voir pendant le carême que chacun va choisir en fait la dimension pour laquelle il va jeûner. En outre, les pollutions démocratiques sont aussi responsables de nouveaux aménagements que de la 16. En effet, le vieillissement des communautés font que les communautés monastiques ont de moins en moins la capacité de réellement mettre en place des formes de jeu. À cela s'ajoutent aussi des redéfinitions, en fait, des nouvelles approches jeu, non seulement par la santé et par l'écologie. Je vous donne un exemple. J'ai étudié un monastère de Monial, proche de Paris, qui jeûnait véritablement sur la règle de Saint-Benoît, donc se privant de viande, et qui remplaçait les protéines de la viande, notamment par beaucoup de plats faits à partir d'œufs. Ce monastère a fait l'objet d'une étude d'un hôpital parisien sur le cholestérol, et les chercheurs se sont rendus compte que les moniales, en fait, mangeaient de manière beaucoup trop grasse du fait donc des œufs qui étaient partie prenante de beaucoup de leurs plats. Du fait de ce résultat, en fait, la communauté a choisi finalement d'accepter de manger de la viande, commencer à manger trop d'œufs, et on voit là une redéfinition du jeûne et de la cesse pour des raisons de santé. Parallèlement, le jeûne a perdu de sa valeur dans l'Église catholique avec le recul des prises concernant le jeûne et le jeûne du carême. Le jeûne eucharistique, donc le jeûne avant de communier, ne constitue plus une pratique vécue par les croyants ni une prescription conseillée par le clergé. Je vais passer à la diapo suivante. Ce recul s'observe, selon Guillaume Duchet, dès l'après-guerre, notamment en Jean-Pierre 33, qui 12, plus dans la constitution christique que la prise d'eau ne détruit plus le jeûne eucharistique et que celui-ci est réduit à 1 heure pour le liquide et 3 pour le solide. En 1964, le jeûne eucharistique est réduit à 1 heure autant pour les nourritures liquides que solides, comme l'indique encore le droit de 1983. Donc théoriquement, croyants doivent encore 1 heure avant la communion, et si on calcule en fait le fait que c'est 1 heure avant la communion et non pas avant le début de la messe, qu'il faut prendre en compte le déplacement jusqu'à l'église, dans les fêtes, il n'y a pas des croyants, des fidèles, vivent le jeûne eucharistique sans en avoir l'impression. Concernant le carême, la conférence des évêques de France explique que les recommandations de l'église donc, sont notamment que l'Église nous rappelle certains actes pénitentiels significatifs, manger moins chaque vendredi, jeter au moins un repas le mercredi saint et le vendredi saint, et maîtriser nos instincts. Donc l'abstinence de viande n'est aucunement mentionnée, ni le jeûne total, il ne s'agit en effet que de manger moins, donc la définition est assez floue, et de se priver au plus d'un repas. Donc on voit dans la formulation de ces recommandations qu'elles sont minimisées dans leurs affirmations. Parallèlement donc à cette perte du jeûne dans l'Église catholique, on a vu l'apparition de nouveaux types de jeûne. La méthode que j'étudie ici, donc, si on passe à la diapo suivante, est celle dite de Bourignan-Lutzner, qui a été développée par le docteur Bourignan et popularisée à partir des années 70 par le docteur Lutzner. Donc tous les deux nés fin du XXe. Tous les deux étaient chrétiens et partaient aussi de l'observation du fait que l'Église catholique ne diffuse plus de forme de jeûne. Ils étaient tous les deux actifs donc, dans une clinique au bord du lac de Constance et ont donc développé cette nouvelle forme de jeûne qui n'a été arrivée en France dans les années 90, importée par un Allemand qui s'appelait Gisbert Beu. Cette forme de jeûne présente le paradoxe de la version d'être plus sévère que les formes traditionnelles de jeûne chrétienne. En effet, la spécificité du Bourignan-Lutzner est de renoncer totalement à toute nourriture solide, pratique qui n'était pas en fait réellement dans le contexte. Seuls les liquides sont acceptés, donc les tisanes, les jus ou légumes et le fameux bouillon de légumes en La spécificité de ce jeûne est aussi d'avoir une perspective dite holistique pour toutes les dimensions humaines pour agir à trois niveaux, corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est important aussi de prendre en compte que ce jeûne, même s'il a été développé par des médecins, n'est pas un jeûne qui a des vertus uniquement thérapeutiques corporelles, mais la dimension spirituelle a toujours été intégrée dans cette méthode. Dans mon observation donc des transferts de jeu de monastère vers la société, j'ai aussi observé que ces pratiques reviennent dans le monde catholique, mais sous la forme sécularisée, donc sous la forme de ces nouvelles pratiques de. J'ai vu en effet que certains monastères, donc aussi en France, proposent des sessions de jeu accompagnées par des prêtres, et il y a même qui se forment pour être accompagnateurs de jeûne et qui proposent à leur communauté de vivre ces formes de jeûne. On observe aussi de plus en plus d'offres à la population des laïcs qui font dans le. Donc, j'habite en Suisse depuis un an et beaucoup de paroisses catholiques ou protestantes d'ailleurs en Suisse proposent de vivre une semaine de jeûne accompagnée donc, en parallèle de sa vie professionnelle pendant le carême, que l'on peut aussi voir par exemple dans des communautés charismatiques comme la communauté de l'Emmanuel. Il y a simplement un paradoxe intéressant, c'est que pour le catholicisme, théoriquement, le dimanche n'est pas carême, on ne jeûne pas le dimanche. Or, puisque donc le dimanche, on fait quelque chose de plus important qui est la résurrection de Christ. Or, dans ce type de jeûne, interrompre le jeûne pendant une journée signifierait faire des effets positifs sur le corps, et donc on en arrive à jeûner aussi le dimanche, ce qui encore une fois est un paradoxe par rapport au type de jeûne théoriquement, qui constitue théoriquement le carême catholique. Parce que l'on voit en fait là le corps est une place prépondérante plus que la porte spirituelle. Alors pour dresser un portrait rapide de semaine de jeûne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qu'une semaine de jeûne pour ignorer ? Alors je dis une semaine parce qu'il est recommandé en général effectivement de le vivre une semaine, même si certains vont vivre deux semaines ou essayer de le vivre pendant 40 jours ou plus. On voit aussi des formes d'inflation en fait de performance de jeûne. Donc cette semaine pour ignorer commence dès avant en fait, le début réel du jeûne avec une réduction progressive de la consommation alimentaire pour arriver au jour où il est recommandé, je ne dis pas, je ne pas le remercier, de prendre des sels de lardons en fait, pour vider les intestins et pour dire, comme on dit, de donner un signal au corps pour dire qu'à partir de ce jour-là commence le jeûne. L'idée est vraiment qu'il y ait un clair du jeûne. Ces semaines peuvent vivre soit dans des groupes constitués, groupe de randonnée tous les jours, on va aller d'un point A à un point B, soit dans des monastères, dans des hôtels, accompagnés par un entraîneur de jeûne, un coach de jeûne, soit elles peuvent se accompagner mais dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que je continue à vivre une vie quotidienne normale, notamment ma vie professionnelle, et tous les soirs ou tous les deux jours, je vais rejoindre mon groupe, accompagné là encore par un coach, où on va déguster ensemble de légumes, et c'est une différence sur les éventuelles difficultés ou expériences. Soit la dernière possibilité est aussi de le vivre seul, avec soi-même, ce qui est aussi beaucoup souvent le cas de personnes qui considèrent n'avoir pas les moyens financiers pour vivre une semaine accompagnée, et qui sont donc, soit en parallèle de la vie professionnelle, soit certaines personnes prennent une semaine de vacances exprès pour vivre cette expérience. Un point important, donc j'ai souligné le fait que ces semaines de jeûne avaient été plus claires, elles ont aussi une fin claire de clore le jeûne, donc par cette rupture du jeûne, de prendre par une pomme, la dégustation lente, consciente d'une pomme à la fin de la semaine de jeûne. Ensuite, il est recommandé de recommencer progressivement en fait à manger. En général, c'est préparé sur la même que le jeûne en lui-même. signifie que si j'ai duré, si j'ai pris une semaine, je vais avoir donc besoin d'une semaine pour remanger. Alors, passons à la diapo suivante. Qui jeûne et pourquoi jeûne-t-on? Qui sont donc les personnes, tout d'abord, qui choisissent une semaine de jeûne? Donc, on peut directement passer à la diapo suivante. Donc, de manière générale, le jeûneur est plutôt une jeûneuse. Il s'agit en général aux trois quarts de femmes. Alors, ceci n'est pas nécessairement étonnant si on prend en compte, d'une part, le fait que la nourriture, le monde des enquêtes ethnologiques et médicales, la nourriture joue un rôle plus important pour les hommes qui auraient plus de place privée. Parallèlement à ça, toutes les enquêtes de sociologie et des religions montrent que la spiritualité est toujours plus un objet féminin que masculin, donc les femmes sont toujours plus pratiquantes que les hommes d'un point de vue statistique. Donc si on met ces deux faits ensemble, il n'est pas nécessairement étonnant de voir que les femmes pratiquent plus les formes de jeûne que les hommes. Dans mes enquêtes, j'ai aussi trouvé que les jeûneurs étaient en général des personnes qui ont en moyenne un niveau de diplôme plus élevé que la moyenne nationale. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des personnes qui vont aussi lire, qui vont s'informer sur ces méthodes de jeûne, surtout si elles les vivent elles-mêmes à la maison. Et on voit aussi que des catégories sociales moins élevées, en général, ne vont pas être attirées par des formes de jeûne parce que vont considérer que le fait de pouvoir manger suffisamment est en fait une forme de réussite sociale. Ils ne vont donc pas considérer qu'il est positif de se priver. Enfin, concernant les tranches d'âge, dans les semaines de jeûne, la tranche d'âge la plus représentée était celle des 50-65 ans. En revanche, pour les jeunes, vécus à la maison, donc vécus seuls dans la vie courante, les tranches d'âge sont plus jeunes. Et on va aussi avoir la tranche d'âge des moins de 35 ans qui sera aussi représentée. Concernant les profils religieux, qui sont les personnes qui jeûnent actuellement? On peut passer à la slide suivante. Je ne sais pas si tous les items sont passés. Lorsque je dis de passer à la suivante, pour que ce soit plus simple, vous pouvez directement cliquer pour que tout apparaisse sur la page, vu que je ne peux pas le faire de manière progressive. Parce que sinon, peut-être qu'on manque.
Est-ce qu'on est sur le catholique en recherche?
Donc, le premier profil religieux que j'ai construit serait effectivement le catholique en recherche de réidentification ou de réincarnation de sa pratique religieuse. Donc, en général, c'est un catholique, je dirais, intégral, dans le sens où il pratique complètement sa foi, il va à la messe le dimanche, il part au sacrement et il affirme son appartenance à cette religion. Il est aussi ouvert à d'autres pratiques, il ne vient pas directement de la pratique catholique, pour redonner du sens à sa propre pratique, à sa propre croyance. Et donc ce sera en général le profil qui va décider de vivre une semaine de jeûne pour Union Luxner, par exemple dans le cadre du carême, dans le cadre d'une retraite dans un monastère, et qui va la vivre réellement aussi avec un but spirituel. J'ai vu par exemple aussi dans un séminaire où j'étais avant en Autriche, où il était proposé aux séminaristes de vivre une semaine de jeûne, accompagné par le recteur du séminaire, pendant le carême. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil religieux, c'est celui que j'ai appelé du chrétien holiste, donc qui apparaît là sur la slide. C'est un chrétien qui pratique de manière occasionnelle, qui conçoit son identité chrétienne comme fond culturel. Il utilise des ressources chrétiennes comme la Bible, mais il va s'intéresser aussi facilement à d'autres pratiques spirituelles, notamment d'autres spiritualités. Lorsque j'ai demandé dans mes questionnaires à quelle autre spiritualité il s'intéressait, en général, ce qui est ressorti le plus souvent, c'est le bouddhisme. Donc des pratiques plutôt orientales. Par exemple, la responsable de la semaine de jeûne, la première semaine de jeûne et randonnée à laquelle j'ai participé, est catholique, elle a fait une formation avec le diocèse d'accompagnatrice de pèlerinage, mais elle est aussi maîtresse de Reiki, donc c'est le travail sur les énergies, et elle se dit disciple du prophète Sai Baba, donc vous avez une photo ici de ce prophète, en tout cas il se dit prophète, en Asie, qui est un peu sectaire, lorsqu'on voit sur internet il y a aussi des accusations d'abus, etc. Mais pendant la semaine de jeûne, elle va autant allumer une bougie dans toutes les églises que l'on va visiter, qu'elle porte en fait sur son sac banane une effigie de ce prophète. Donc elle dit, je la cite, oui, alors pour moi ça tient grande place dans ma vie, donc la religion chrétienne, mais je ne la relie pas forcément avec le fait que je dois aller à l'église, parce que pour moi Dieu est partout, et pour moi c'est aussi Dieu quand je rencontre d'autres personnes, donc ce n'est pas forcément lié au fait que j'aille le dimanche à l'église, c'est pour moi simplement beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est le deuxième profil. On peut passer au troisième profil, donc la slide suivante. Le troisième profil, c'est celui que j'ai appelé chercheur de spiritualité, qui est une catégorie fortement répandue parmi les jeûneurs. C'est ce qu'on appelle aussi un bricoleur en sociologie, bricoleur interspirituel, qui va prendre des références un peu dans différents milieux spirituels, milieux religieux, et il est lui-même conscient de sa quête de spiritualité, et qui peut la structurer dans un récit narratif. Lorsque je demande d'expliquer, ces chercheurs de spiritualité savent très bien légitimer, justifier leur recherche spirituelle. Et souvent, ils vont chercher eux-mêmes, donc ils vont lire beaucoup, participer à différentes formes de séminaires. Donc là, je cite par exemple Constantin, donc Constantin qui a 22 ans, qui est étudiant, qui m'explique, quand j'étais petit, j'allais à l'église une fois par semaine, affreux, des vieilles personnes comme des zombies. Ensuite, j'ai fait mon service civique, ça m'a pas mal changé d'aider des gens et de voir la vie sous un autre angle. Ensuite, j'ai réalisé que je ne sentais pas appartenir à cette communauté la plus grande du monde. Je suis sortie de l'église quelques années plus tard. Il est possible en effet en Autriche de sortir de l'église, ce qui n'est pas le cas en France. Et c'est peut-être à entendre, j'ai bricolé ma propre croyance. Je l'ai bricolé. Je veux dire, je parle avec des témoins de Jéhovah, je parle avec des bouddhistes, je les aime tous. Ils sont exactement ce que la spiritualité, même ces types des aliens, je les aime tous. Ils réfléchissent et je crois que c'est ça qui est important. Mais moi, si quelqu'un me demande, je suis sans affiliation religieuse. Je ne me reconnais en aucun cas dans la foi catholique romaine. Dans ce cas, je dirais plutôt que je suis spirituel, que je m'intéresse à quelque chose. Je suis religieux, mais pour moi-même. Voilà, donc ça c'est le deuxième profil. De chercheurs de spiritualité, donc il y a une recherche consciente. Le quatrième et dernier profil, je l'ai appelé le profil donc, du spirituel sans ancrage. Il s'agit d'une spiritualité qui ne se définit pas elle-même, mais qui est cependant affirmée. Donc on y retrouve certains discours d'origine chrétienne, mais l'individu ne s'intègre dans aucun mouvement existant. Et souvent, donc, il ne va pas désigner lui-même son courant spirituel. Il affirme croire en quelque chose, mais ne sait pas quoi. Donc, par exemple, là, Véronica, qui a 32 ans, explique, je vous le dis tout de suite, je suis sortie de l'église immédiatement après mes études. C'est peut-être bête à dire maintenant, mais quand j'ai dû payer l'impôt, je suis sortie. Donc, en Autriche, il y a un impôt sur l'église, et en général, la motivation de sortir, c'est de ne plus payer l'impôt. Non, ce n'est pas bête, c'est comme ça. Je crois en quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être Dieu, je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment satisfaite du concept d'église. C'est pour ça que ce n'est pas pour moi. Oui, je suis dans un fourre-tout. Donc voilà un peu les quatre types de profils spirituels qui vont se retrouver parfois sur les mêmes stages de jeûne. Alors encore une fois, les stages de jeûne dans un monastère, on aura moins ce dernier type de profil spirituel, on aura plutôt des profils catholiques. Mais j'ai observé sur les différentes semaines auxquelles j'ai participé un certain mélange dans ces différents profils. Quels sont les buts pour jeûner? Donc on peut passer à la slide suivante. Donc clairement, il y a l'idée derrière de détoxication corporelle, donc de se détoxifier pour le cœur, corps. Je reviendrai plus tard à la notion de purification. La recherche de soi, de clarté intérieure, qui est très importante, et éventuellement, pour ceux qui sont croyants, la recherche de la transcendance, la recherche de Dieu. Alors, on peut passer à la slide suivante. Ce qu'affirment les gens donc dans les entretiens, dans les questionnaires, les buts pour jeûner, donc une femme de 56 ans, une nouvelle orientation et pouvoir plonger profondément au-dedans de moi, donc se retrouver soi-même. Lâcher prise, voir plus clair, retrouver le calme, ressentir avec intensité, sans être distraite, avoir du temps pour moi, et aussi ressentir une certaine légèreté. Une femme de 47 ans. Là, vous voyez que pratiquement, ce ne sont que des femmes, les citations que j'ai ici, et on voit aussi la tranche d'âge. Une femme de 63 ans, porter son regard en soi, aller à ma rencontre, passer plus de temps à me retrouver soi-même. Donc, on voit vraiment ici que la première motivation essentielle qui est explicitée, c'est de se retrouver soi-même. D'où l'idée aussi de pouvoir prendre du temps pour soi une semaine exprès. L'échelon suivant, donc si on passe à la diapositive suivante, ce serait, donc pour ceux qui ont une croyance explicite, ce serait de passer de la recherche de soi à la recherche de Dieu. Donc, on le voit ici dans les extraits d'entretien, se désencombrer pour aller à l'essentiel, se vider pour se remplir de l'autre, de Dieu, pour accueillir sa présence dans ma vie. Faire le vide, faire une pause, pour se laisser remplir par autre chose, être occupé d'autres priorités, aller à l'essentiel, retrouver la source. Mettre de côté ce qui encombre à l'extérieur pour laisser émerger ce qui veut se dire de l'intérieur, ouvrir un espace disponible pour l'accueil de l'esprit divin et le laisser au maximum se déployer en moi. Donc pour ceux qui ont une croyance religieuse, qui croient en Dieu, la recherche de Dieu va être explicite, mais arrive dans un deuxième temps après la recherche de soi-même. Mais on voit aussi que les raisons écologiques, donc la visée écologique, prend une place très importante dans les pratiques de jeûne. Dans le renoncement qu'il s'impose, le jeûneur offre parfois directement son sacrifice à la préservation de la nature. On voit beaucoup le voir dans le jeûne de viande, lorsqu'il se base sur une vision écologique du végétarisme. Mais la nature prend une place importante dans l'expérience du jeûne. Elle va souvent être invoquée par les jeûneurs comme source d'énergie. Il va souvent s'agir de renouer un lien profond avec la nature, un peu de travailler à la sauver de son apocalypse provoquée par l'activité humaine. Il y a beaucoup de jeûneurs qui expliquent aussi vouloir renouer le lien avec la nature pendant le jeûne et donc vouloir aussi vivre leur semaine de jeûne dans la nature, de vouloir aller se promener, comme je disais aussi, donc par exemple de vivre une semaine de jeûne et randonnée. L'un d'eux dit par exemple, le jeûne nous rend plus sensibles à l'environnement, à la nature, à l'air que nous respirons, au sol sur lequel nous sommes posés. Est-ce que nous ne nous sentons pas plus partie de la terre? Ou une jeune fille, par exemple, dans un groupe Facebook, explique, donc livre son témoignage, et elle demande est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui se sent aussi, pendant le jeûne, plus relié à la nature. Donc on voit ici que ce jeûne séculier est, pour une grande partie de nos jeûneurs, une ascèse profondément écologique qui va viser à reconstruire une harmonie pensée entre l'homme et la nature. Auparavant, dans les monastères, dans l'église, les jeûneurs jeûnaient pour Dieu, et ici on va voir que beaucoup jeûnent pour la nature. Donc je cite par exemple dans les questionnaires, certains le font explicitement pour des raisons écologiques, une femme de 58 ans, je fais partie des jeûneurs pour le climat, ou par exemple une femme de 70 ans, valeur écologique. Une autre dimension à la slide suivante. Lorsque j'ai choisi de travailler sur le jeûne, je n'avais pas encore beaucoup lu sur le sujet, et je croyais qu'il s'agissait uniquement de ne rien laisser entrer dans son corps. Or, il s'agit aussi, dans la méthode Bourignon, de tout évacuer. Donc, de manière concrète, cela signifie, comme je l'ai dit au début, il est recommandé d'ouvrir la session de jeûne par la prise de sel de lavement, donc de tout évacuer, de vider tous les intestins. Et la méthode Bourignon-Lutzner recommande aussi de faire des lavements intestinaux par une poche de lavement, là que je vous ai représentée ici, tous les soirs. Alors, comme anecdote de terrain, je n'étais pas prête à donner mon corps à la science jusqu'à ce point de faire des lavements intestinaux tous les jours. Or, la responsable de la semaine de jeûne ne voulait m'accepter dans le groupe que si je pratiquais des lavements. Alors, j'ai accepté de prendre la poche de lavement et je lui ai dit voilà, que j'allais le faire, mais sans m'étendre sur le sujet. Et le premier jour, donc dans le groupe qui était constitué que de femmes, celles qui avaient l'habitude ont encouragé les nouvelles pour leur premier lavement, etc. Et deux jours plus tard, elles nous ont demandé comment ça s'était passé. Alors je me suis retrouvée dans la situation un peu compliquée de ne pas vouloir mentir pour ne pas perdre la confiance, pour ne pas raconter quelque chose que je n'avais pas fait. Mais en même temps, si je disais que je ne pratiquais pas les lavements, c'était compliqué par rapport à ma position dans le groupe et la confiance de mes invités. Sachant que j'avais dit explicitement que j'étais sociologue, alors ils m'ont demandé alors Isabelle, comment se passent tes lavements ? J'ai répondu d'un ton assez évasif, bien, bien, et j'ai espéré que le sujet irait sur autre chose. Ça a été le cas, mais. L'une des participantes est revenue. Alors, raconte Isabelle comment ça s'est passé. Je me suis sentie très mal. J'aurais préféré à ce moment-là être sous la table. Et j'ai eu l'inspiration qui m'est venue. J'étais la seule non-autrichienne dans un groupe d'autrichiennes. Et je leur ai dit que dans ma culture, on ne parlait pas de ce genre de choses. Mais c'était tout à fait accepté. Et je n'ai pu ne pas raconter les expériences de l'avant que j'en faisais. Voilà, comme petite anecdote, mais en tout cas, je me suis rendu compte que parmi les jeûneurs, c'était quelque chose qui prenait beaucoup de place, qu'elle racontait effectivement à table, et l'idée derrière était vraiment l'idée de purification. J'ai écrit « L'eau est le purificateur universel », en anthropologie des religions, l'eau joue un grand rôle de purification, et effectivement, beaucoup de jeûneurs, de jeûneuses, employaient ce terme de purification. Ce qui était d'autant plus intéressant pour moi, c'est que je me suis renseignée d'un point de vue médical, les lavements ne sont pas considérés comme obligatoires ou incontournables, dans le sens où le corps sait s'adapter. L'idée du lavement serait en fait que les restes qu'il puisse y avoir dans l'intestin peuvent provoquer une intoxication. Or, d'un point de vue médical, les médecins ne sont pas d'accord avec cette idée. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi les jeûneurs s'imposent eux-mêmes ce type de pratique qui n'est pas particulièrement agréable si elles ne sont pas obligatoires d'un point de vue médical? Donc, il y a le lavement avec l'eau et on peut aussi faire des lavements à base de café que l'on va appeler le lavement George Clooney. Et en fait, je me suis rendu compte dans les profils des gens qui participaient à cette semaine que beaucoup étaient des personnes qui avaient vécu une crise dans leur vie. Ou en tout cas que la première semaine du jeûne à laquelle ils participaient était suite à une crise importante dans leur vie. Donc par exemple, mort dans la famille, par exemple l'une qui a perdu son fils tragiquement à 18 ans, une maladie grave, un divorce ou des personnes qui sont un tournant biographique de leur vie, par exemple, qui vont commencer leur retraite et qui ne savent pas comment la vivre, ou des étudiants, des problèmes d'orientation, en fait, d'études, de vie, etc. Et ce type de profil se retrouve souvent aussi dans le cas des spiritualités alternatives ou des spiritualités de guérison. Et ce qui m'a beaucoup interrogée aussi sur le fait que l'Église catholique elle-même n'est plus capable en fait de proposer quelque chose à ces personnes. Normalement, c'est la confession aussi qui le sacrement de réconciliation qui devrait répondre à ce type de besoin, ce qui n'est plus le cas puisque même des catholiques vont chercher en fait la réponse à ce besoin dans des pratiques qui ne sont pas des pratiques directement de l'Église catholique. Donc c'est ce besoin de purification, de se vider en fait de ce qui pèse, va être recherché, donc encore une fois par des personnes souvent qui ont vécu une crise, qui ont besoin de vivre quelque chose de fort pour prendre un nouveau départ dans leur vie. Nous pouvons passer à la troisième partie, les paradoxes du jeûne et l'effet social du jeûne. Donc dans la tradition chrétienne, mais aussi la tradition musulmane, le jeûne fait partie d'un système ascétique plus vaste qui associe souvent l'aumône et la charité. Ce n'est pas le cas ici dans la plupart des stages étudiés, sauf parfois des stages accompagnés par des prêtres qui vont aussi introduire cette dimension. Mais le paradoxe que j'ai observé est que ces sessions de jeûne dans un groupe organisé sont souvent très chères. Pour donner le prix des sessions auxquelles j'ai participé, mais ça remonte à quelques années, donc il faut augmenter les prix, la session de jeûne et randonnée à laquelle j'ai participé était de l'ordre de 800 euros, sachant que donc c'était une session de randonnée, donc ils nous dormaient dans des auberges, dans des chambres doubles qui n'étaient pas, plus de 35 euros la nuit. Donc, ce qui signifie, d'après mes calculs, que la plus grande part du coût allait à l'encadrement, en fait, à la responsable de la session de jeûne. Et je pense que derrière, il y a aussi véritablement l'idée que ce qui n'est pas cher, ce qui est trop bon marché, ce qui ne serait pas considéré de bonne qualité. Donc on va aussi avoir tendance à aller chercher une session de jeûne qui peut-être est plus chère parce qu'on aura l'impression que le service est de meilleure qualité. Mais lorsqu'on réfléchit, cela signifie en fait que l'on paye cher, que l'on paye par exemple 800 euros une semaine en fait pour ne pas manger. Et dans d'autres contextes, on va payer pour manger. C'est l'année de ma première enquête sur une semaine de jeûne. J'ai aussi fait ma première enquête de terrain dans des monastères en Afrique, et donc j'ai été au Togo cette année-là, dans des monastères dans la Bousse. Et je me suis rendu compte en fait que les instituteurs dans la Bousse au Togo auraient en fait besoin de 2 ans de travail pour se payer une semaine de jeûne en Europe. Donc ce qu'un instituteur au Togo gagne en 2 ans pour se nourrir et nourrir sa famille, un Européen peut dépenser pour une semaine pour ne pas manger. Et encore une fois, ce qui est important dans ces semaines de jeûne, on est prêt à les payer, donc encore une fois, pour avoir l'encadrement et pour être sûr qu'on ne va pas transgresser son engagement à ne pas manger. Parce que faire une semaine de jeûne chez soi seul, c'est aussi se confronter avec la difficulté de tenir son engagement et de ne pas transgresser malgré toutes les possibilités qui nous sont données dans la vie quotidienne de pouvoir manger. Donc c'est vraiment, lorsque je dis que c'est une semaine où on est prêt à payer pour ne pas manger, c'est vraiment cette idée que l'on va m'aider à ne pas manger. J'ai aussi remarqué souvent dans les semaines de jeûne, des euphémismes concernant l'économie. On ne va pas vouloir aborder la question des frais de manière directe, donc comme si l'idée était qu'il ne s'agit pas d'argent, mais il s'agit vraiment d'une expérience pour soi. Or, bien sûr qu'il y a une économie derrière, bien sûr qu'il y a des questions financières derrière, puisque des personnes vivent aussi de l'encadrement de ces semaines de jeûne. Ce paradoxe des coûts induits par le jeûne se retrouve aussi dans tout un certain nombre d'instruments que l'on va acheter pour accompagner la semaine de jeûne. Par exemple, la question des filtres à eau. Je voyais dans un groupe Facebook sur le jeûne un membre qui annonçait vendre son filtre à eau qui lui avait coûté à l'origine 356 euros. Donc c'est intéressant de voir que dans la semaine de jeûne, on va aller chercher quelque chose en fait aussi artificielle, une semaine, une eau filtrée qui va coûter cher plutôt que de boire tout simplement l'eau du robinet. Mais l'idée derrière, c'est que l'eau du robinet ne serait pas assez naturelle, assez purifiée, et donc on va la justifier par des construits artificiels qui vont purifier. On voit aussi qu'un certain nombre de jeûneurs vont prendre des substituts alimentaires. Par exemple, des comprimés de bactéries intestinales, puisque les larvements, en fait, peuvent avoir pour conséquence de détruire la flore intestinale. Et donc, en retour, les jeûneurs vont prendre des comprimés de bactéries intestinales. D'autres recommandent de prendre de la spiruline, de la chlorelle. Donc, de manière paradoxale, le jeûneur va prendre sous une forme transformée et commercialisée ce qu'il avait cherché, en fait, à purifier. Cette tentation de la non-consommation se retrouve en fait de manière assez extrême dans des formes de jeûne qui sont reconnues en France comme sectaires, donc de ce qu'on appelle des formes d'inédit ou le respirianisme, la nourriture de la lumière, qui a été fondée par une Australienne, Hélène Grave, qui se fait appeler Yashmanin, et sa thèse serait en fait que l'alimentation, donc la nourriture concrète, alimentaire, est en fait la conséquence d'un lobby de l'industrie alimentaire qui nous font croire que nous pouvons nous nourrir uniquement que de nourriture alimentaire. Or, selon elle, nous pouvons nous nourrir d'énergie cosmique qu'elle appelle prana, donc de la lumière cosmique. Donc, c'est pas uniquement la lumière du soleil, c'est la lumière cosmique, des ondes cosmiques. Et selon elle, en fait, nous pouvons reprogrammer notre corps pour pouvoir nous passer de nourriture alimentaire et nous nourrir uniquement de cette énergie cosmique. Et selon elle, ce serait aussi une solution à la faim dans le monde. Et elle rêve d'un monde sans pauvreté mondiale, mais aussi sans industrie alimentaire, sans champs, puisque l'on pourrait se nourrir autrement. L'échec de cette utopie, c'est qu'elle-même n'a pas réussi à trouver être capable de vivre ce jeu dans son propre corps, dans son propre personne, puisque lorsqu'elle a enfin accepté d'être filmée pendant cette reprogrammation du corps, un médecin qui l'accompagnait lui a demandé d'arrêter parce que son corps en fait ne supportait pas ce manque de nourriture. Et une enquête, une expérience menée à l'université de Berne en Suisse a montré en fait que les résultats cliniques de cette reprogrammation étaient en fait des résultats uniquement de jeûne, mais qu'il n'y avait pas d'autre apport de nourriture dans le corps, donc que cette nourriture cosmique ne fonctionnait pas. Et le respirianisme est recensé en France et en Allemagne comme secte. Mais le jeûne, donc je dis qu'il peut être vécu de manière individuelle, mais c'est aussi pour toute une certaine part des jeûneurs un engagement social, notamment contre la société de consommation. Donc nous voyons là par exemple des citations de personnes pour qui le jeûne est vraiment aussi une démarche de... Pardon, si l'on passe à la diapositive suivante, un engagement social. Donc un prêtre qui est responsable de semaines de jeûne explique que les gens dans les semaines de jeûne prennent assez vite conscience que le premier acte politique, c'est ce que l'on choisit de manger ou ce que l'on refuse de manger. La manière de se nourrir est un véritable choix, et pour la santé, et pour l'écologie. Dans le questionnaire que j'ai mené, donc celui en français, on voit aussi différentes personnes qui affirment donc vivre leur jeûne comme une démarche de protestation sociale, donc résister à l'esprit de consommation, me soustraire à la machine infernale de la consommation, fuir la société de consommation, et montrer que ce n'est pas ça, c'est une cédille démocratique allemande, ne me le permet pas toujours, qui amène le bonheur, et sortir du dogme de la croissance de la consommation. Donc, tout comme pour les mouvements ascétiques des premiers siècles du christianisme, on observe ici un lien entre la démarche chrétienne du jeûne et l'exercice ascétique, mais aussi la contestation vis-à-vis de la société, la protestation de la société, avec l'idée qu'il est possible, par ce type de pratique, par ce type d'expérience aussi, de construire une nouvelle société qui ne serait plus la société de consommation. La question que l'on peut poser, si on passe à la diapositive suivante, c'est bâton vers une alimentation morale. Les discours visant à conscientiser les comportements alimentaires tendent à les catégoriser selon des distinctions morales qu'on passe sans rappeler la rhétorique utilisée vis-à-vis du péché de gourmandise. Or, dans le catholicisme, aucune nourriture n'est en soi interdite. Il n'y a pas d'interdiction de manger du porc, etc. Et seule la gloutonnerie est un péché. Et non pas dans le sens d'aimer les bonnes choses, qui est la manière dont on comprend la gourmandise de manière actuelle, mais en fait le fait de ne pas savoir se modérer. Et par exemple ici, donc, les conseils d'Hippocrate seraient bons pour la santé, mais ne pas les suivre ne plus jamais un péché. En revanche, manger plus qu'il ne faut, privilégier la quantité sur la qualité, ne pas maîtriser ses envies, renvoie aux idées actuelles d'une alimentation immorale. Et on le voit lorsque vous êtes dans le métro, lorsque vous êtes dans la rue, vous voyez des affiches « manger moins gras, moins sucré, moins salé ». On nous offre quelque chose d'une main, on va nous offrir le produit qui est sur l'affiche, mais de l'autre, on nous le retire en nous disant qu'il n'est pas bon de manger gras, salé, sucré, comme si c'était immoral, parce qu'au fond, ça nuit donc à notre santé, mais ça nuit aussi aux impératifs actuels de beauté, donc de rester jeune, mince, etc. Donc on voit qu'il y a des catégories, en fait, d'aliments qui sont presque considérés comme purs ou impurs, hein, et qui font ressortir en creux la notion d'interdit. Voilà. Et cette concentration, en fait, ce qui est intéressant, c'est que véritablement la médecine n'a pas ce type de positionnement, en fait, considérant l'alimentation, parce que, donc, comme le dit Jean-Michel Le Serre, les régimes, donc pour maigrir, snobent le principe de la nutrition scientifique qui affirme qu'il n'y a ni mauvais aliments, ni aliments indispensables, ni bien sûr d'aliments parfaits. Donc on voit vraiment que derrière ces notions morales qui n'ont pas de lien directement avec la médecine. Et comme le résume Jean-Louis Fondrin, le retour de religieux dans l'alimentation des Occidentaux est paradoxal, en ce qu'il s'est effectué au moment même où s'accélérait la non-observance des règles religieuses traditionnelles. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il est de plus en plus évident que se dessine un mouvement qui se renforce actuellement par la réactivation mondiale du judaïsme et de l'islam, dans le domaine de l'alimentation comme dans les autres, et du côté chrétien, par de nouvelles réglementations alimentaires qui émanent non pas de l'Église catholique, mais de sectes protestantes. Il est vrai que ces nouveaux interdits sont très différents des anciens. Ils visent non pas à préparer l'âme pour des temps de pénitence et de prière, mais à éliminer les nourritures dangereuses pour le corps des fidèles et d'une manière ou d'une autre, impures. Donc on s'achemine ici non pas seulement vers une morale de l'alimentation, mais bien aussi vers une alimentation morale. En conclusion, donc les formes de renoncement étudiées ici témoignent en premier lieu d'une dévalorisation de l'abondance permise par la consommation. Le droit naturel à l'abondance, qui a été évoqué par Jean Baudrillard dans les années 70, est devenu une donnée dans les sociétés occidentales où une majeure partie de la population, donc la majeure partie de la population, a actuellement accès à suffisamment de nourriture alimentaire donc pour se nourrir. Une fois l'abondance devenue le quotidien de ces sociétés, celles-ci s'en sont captées jusqu'à lui ôter sa capacité à apporter la plénitude et ont alors découvert des effets négatifs sur l'environnement, sur le corps individuel ou sur les structures de la société. D'une certaine manière, la société d'abondance n'a pas tenu ses promesses évoquées dans les années 70. Elle n'a pas apporté autant de bonheur ni d'insouciance qu'elle laissait espérer. Et surtout, elle n'a pas permis de considérer l'avenir de manière sereine et sûre une fois pour toutes, une fois que le spectre des famines et des disettes était effacé de l'horizon. En éliminant le manque, elle a conduit à la croissance d'autres désordres, donc qui sont actuellement surtout des désordres écologiques. Donc si l'on résume, on peut montrer la dernière slide. Donc la société actuelle revient en partie sur l'idéal de consommation comme nécessaire ou unique voie d'accès au bonheur. Un point de saturation semble avoir été atteint dans la consommation, où son augmentation n'apportera pas plus de bonheur, ainsi que le modèle de la société de consommation le suppose, mais au contraire, est susceptible de le faire décroître. Donc là, sur ce graphique, j'ai montré, au début, il était considéré dans le modèle de société de consommation que plus on consomme, plus on va avoir de bonheur, donc la courbe monte. Et c'est exactement ce que nous propose aussi la publicité, le marketing. Plus on consomme, plus on va avoir de bonheur, plus on va se sentir bien et plus on va être aussi soi-même. On voit beaucoup cet argument de l'identité, d'être soi-même dans les publicités. Or, on se rend compte actuellement que plus de consommation n'apporte pas nécessairement plus de bonheur. Au contraire, plus de consommation détruit l'environnement, éventuellement va me faire me perdre moi-même, dans ma propre identité, va encourager finalement, va entraîner des problèmes de santé, va faire que je vais perdre ma ligne athlétique, etc. Donc on voit finalement qu'il n'est plus considéré à un certain niveau que plus de consommation va apporter plus de bonheur. Au contraire, à un certain niveau, plus de consommation va avoir des effets négatifs sur moi-même, sur les autres, sur l'environnement. Et donc finalement, c'est de ce sentiment de trop-plein ou d'abondance que va naître l'idée que le bonheur se trouverait en dehors de la consommation ou éventuellement dans des formes de restrictions volontaires. Et donc ces restrictions, ce moins, ainsi qu'il est revendiqué, ne signifie pas un manque, mais plutôt un transfert de mon bonheur vers d'autres dimensions. L'idée derrière, que l'on retrouve aussi souvent, ça va être le moins et plus. Finalement, réduire ma consommation va m'apporter quelque chose de plus. Donc le modèle de la satiété revient sur l'idée du règne de la consommation et redéfinit son rapport. Et en regard, donc la société de la satiété, telle que je l'ai définie, désigne une société où la restriction et la consommation disciplinée et consciente sont encouragées, valorisées de telle manière à ce que les individus s'orienteront vers ce modèle. Et donc, on voit que dans la société, la satiété, le renoncement volontaire est finalement ce qui va acquérir une plus grande valeur par rapport à la consommation. Je vous remercie. On peut mettre en dernier pour clore ma conférence. Cette image, normalement, il n'y avait pas de questions. Normalement, il n'y avait pas de questions. Nous vous remercions de cette participation. Je vais terminer un peu en présentant d'autres aspects de votre ouvrage. Il est possible de compléter ce que nous avons entendu. Donc, ça donne lieu à discussion, bien sûr, la remarque de monsieur le signifiait. Donc, dans l'ouvrage d'Isabelle Jambeau, vous allez retrouver les éléments qui sont là. Mais vous allez aussi, elle parle d'autres formes de jeûne, par exemple, ne pas utiliser Internet pendant un certain temps. Enfin, vous voyez, il y a d'autres formes de refus de consommation. Et je crois que ce qu'il a montré, c'est, ce qu'elle nous a montré, c'est vraiment effectivement toute l'ambiguïté autour de ces sessions de jeûne, où on trouve effectivement des recherches spirituelles très poussées et des dérives qui peuvent aller jusqu'au sec, etc. Je crois que c'est un panel extrêmement, extrêmement large. Voilà.
Merci infiniment en tout cas. Vous avez été très applaudi. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre via l'ordinateur. Non, pas vraiment. Mais merci de nous avoir éclairé. Et puis, tout ce que vous avez dit va être développé, illustré au cours de la journée par différents acteurs. Et donc, vous avez ouvert cette porte et on vous en remercie beaucoup. Merci Isabelle Jongeau. Nous allons partir, déjà faire une pause, parce que faut qu'on mange un petit peu tout de même, hein, soyons sérieux. Et après, on vous invite à vous installer par groupe de 6 pour répondre à cette question dans les différents points qui ont été abordés depuis hier matin. Qu'est-ce qui vous nourrit le plus? Qu'est-ce qui résonne le plus en vous, le plus fortement? Et on précise que chaque petit groupe qui se forme librement, qui peut se mettre ici, qui peut se mettre au bar, qui peut se mettre sur la terrasse, je ne pense pas au restaurant, ça m'étonnerait, mais vous pouvez prendre l'espace que vous souhaitez. Chaque petit groupe va donc désigner un animateur qui va veiller à la bonne circulation et à la bonne distribution de la parole. Alors là, bon courage. Mais c'est quand même l'idée de l'exercice. J'ai quelques petites annonces, maintenant plus techniques à faire. Notre ami Gérard Gerdil-Margueron va nous proposer à la vente de l'huile de Palestine. Voilà. Alors, moi je l'ai goûtée, elle est excellente, mais surtout, elle aide la Palestine, que ce soit la Cisjordanie ou la bande de Gaza, qui est dans l'état que vous imaginez, et même dans celui que nous n'imaginons pas. Voilà. Il y a différents livres à la vente, dont celui d'un roman de Patrick Géraud. Alors Patrick est en rouge, sur une petite table, et il vous proposera son roman, voilà, dont les bénéfices servent, je crois, à une œuvre en Afrique. Il vous expliquera ça. Nous avons théoriquement une librairie, alors moi j'étais là à appuyer sur un bouton, donc je n'ai pas eu le temps de l'installer, on verra ce qu'on peut faire, si possible on le fera plus tard. Et enfin, à 14h, si vous êtes intéressé par la préparation de la célébration de samedi matin, rendez-vous ici avec René Sorin et la petite équipe qui s'est déjà constituée. Alors je crois qu'il y avait Rouanais, je crois qu'il y avait Simon, voilà. Et je pense vous avoir tout dit, je vois que le trésorier s'agite.
Ouais. Rassurez-vous, c'est pas pour vous demander des sous. Non, c'est toujours aussi un problème très pratique de nourriture pour samedi. Certains d'entre vous ne vont pas forcément être là pour le repas. Donc voilà, on s'est renseigné, donc il y a la possibilité d'avoir des pique-niques. Mais bon, bien sûr, on a besoin d'une liste complète. Alors cette liste, j'ai besoin de l'avoir avant demain midi. Donc je vais vous installer un paperboard là où il y a la librairie. Donc vous inscrire, donc avec le nombre de personnes. Voilà, et donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, les pique-niques seront prêts à partir du petit déjeuner samedi matin. Donc voilà, même pour ceux qui partiraient tôt, alors pas de souci.
Moi, j'étais chargé de dire qu'il y aura un papier à l'entrée, parce qu'il y avait eu 2 ou 3 demandes de covoiturage, mais ça risque bien d'évoluer, parce que d'après les nouvelles, il va falloir qu'on en parle. Après les nouvelles, pour samedi, pour les trains. Mais on va en parler paisiblement et trouver les solutions ensemble. Il y aura un papier, en tout cas pour ceux qui ont demandé déjà des covoiturages, un papier à l'entrée que je vais mettre. Vous mettez votre nom et vous dites que vous voulez aller à tel endroit ou à tel endroit, ou bien que vous avez des places pour tel endroit ou tel endroit. Merci.
Donc, on est prêt, on va pas le laisser à l'envers. Thank you.
fort.
Non, c'est extrêmement rapide.
Alors, oui, c'est ça. que je peux.
Attention, ça c'est son stock, elle, c'est pas la...